Pour nous, l'objectif, c'est vraiment de se dire aussi, voilà, on est une marque inclusive. Voilà, c'est du, on est dans le côté de l'engagement, main dans la main. C'est important qu'on puisse aussi porter les changements qu'on souhaite. Le maquillage, c'est quelque chose que tout le monde utilise. On peut aussi, à travers ce petit achat, participer, aider les autres. Et c'est très important, surtout avec tout ce qu'on vit aujourd'hui. C'est même très important.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. L'envie d'entreprendre ne vient pas toujours d'où on l'attend. Pour Rachel Banza et sa sœur Sabrina Bandundi, cette envie est venue d'une série télé. D'ailleurs, quelques années plus tard, les deux sœurs créeront le centre de beauté multimarque dont elles avaient rêvé petite fille. Ensuite, changement de cap. Rachel et Sabrina lancent Elika Beauty, leur propre marque de make-up, afin d'offrir à toutes les femmes une alternative au maquillage conventionnel. À mon micro, Rachel Banza revient sur son parcours, les obstacles, les valeurs éco-solidaires d'Elika Beauty et raconte comment ne pas être du sérail peut finalement constituer une force. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster.
Bonjour Rachel.
Bonjour Chantal.
Alors Rachel, le maquillage, c'était une passion pour toi au départ ?
Alors oui, totalement, c'était une passion. On va dire que le maquillage, l'univers des cosmétiques, c'est un rêve de petite fille. Donc j'ai monté Elika avec ma sœur. On était toutes les deux passionnées des métiers de la beauté, notamment du maquillage. On était fans d'une série qui s'appelait Les Feux de l'Amour, qui existe toujours d'ailleurs. Ouais. Il y avait un dirigeant qui était Victor Newman, qui proposait des produits cosmétiques pour les femmes. Et nous, en fait, on était très inspirés par lui. Et notre idéal, c'était plus tard de se dire qu'on allait créer un concept beauté également pour les femmes noires. Donc voilà, c'est vraiment une passion. C'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire depuis notre enfance.
Ouais, et donc tu as monté ce projet en fait avec ta sœur au départ.
C'est ça. Donc ma sœur qui est ma petite sœur, du coup on a 4 ans de différence, qui est mon associée. Voilà, donc au départ je travaille très très rapidement en tant que commerciale dans une société où je gagne bien ma vie, mais comme je gagne trop bien ma vie, du coup on est licencié. Et on part en même temps dans un plan de reclassement où ils nous proposent de monter notre entreprise. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Donc, avec ma sœur, du coup, on se dit, bon, bah, c'est notre opportunité. Donc, on se lance et on prospecte, on cherche. Et en 2007, on ouvre notre premier institut qui faisait effectivement de la prestation de services. Donc, on faisait de la coiffure, de l'esthétisme, du soin du visage. On distribuait des produits pour toutes les femmes du monde. C'était le concept. Donc en 2007, Elika Beauty ouvre et c'est le premier institut. C'est à Val-de-Fontenay, c'est à peu près 150 mètres carrés et c'est pour toutes les femmes du monde.
D'accord, ok. Et comment vous avez réussi à vous faire connaître parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme ils sont développés aujourd'hui.
Totalement. Donc à l'époque, il n'y avait aucun réseau social, mais il y avait effectivement une soif de vouloir passer à autre chose parce que à cette époque, c'était soit château d'eau, soit château d'eau, pour pouvoir trouver ses prestations de beauté quand on était une femme afro. Et les clientes avaient envie de passer sur des concepts beaucoup plus haut de gamme avec du personnel qualifié, pouvant répondre aux besoins de chaque type de clientes, y compris les clientes afro, parce que c'est surtout elles qui avaient beaucoup de problématiques et surtout qui ne trouvaient pas tant de conseils que ça. Et donc, du coup, on lance le salon et on passe par des magazines classiques, mais qui étaient très, très répandus, très connus, Miss Eben, Amina, qui effectivement mettaient en avant les concepts un petit peu haut de gamme comme ça de cosmétiques. Et c'est comme ça qu'on se fait connaître parce que du coup, les clientes viennent tester, adhèrent à notre concept. Et puis, le bouche à oreille fait qu'on a eu des clientes vraiment de partout qui venaient, dès qu'elles arrivaient sur Paris, elles venaient passer un week-end beauté, elles venaient chez nous pour se faire coiffer ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment le bouche à oreille et ce côté un petit peu, on cherche une offre plus haut de gamme, plus adaptée, voilà, plus professionnelle pour pouvoir répondre à nos besoins de beauté. C'est comme ça que nous, on a pu se faire connaître.
D'accord. Et à l'époque, c'était facile de trouver des soutiens parce que c'était quand même en 2007. Vous étiez très jeune.
Alors oui, donc pas du tout. Nous, quand on a commencé, on était effectivement très jeune. Et en plus de ça, on n'avait vraiment aucune expérience dans le domaine. Donc bon, déjà, quand on va voir une banque, même si on a du financement, on a un peu de sous, c'était toujours non, non, non. Je pense qu'on a eu plus de 30 non. Parce qu'effectivement, on est jeune et surtout, on ne sait pas faire. Ils ne nous voyaient tout simplement pas capables de pouvoir gérer ce genre de projets. Et puis, pour la petite histoire, un jour, on participe à une soirée où on met en avant des femmes entrepreneuses, on speak, on présente notre projet, et puis il y a un directeur de banque qui est là et qui dit, voilà, moi, j'adore le projet, j'adhère à votre concept, et du coup, je vous finance, je vous soutiens, et c'est comme ça qu'on ouvre notre premier institut. Du côté, on va dire, familial, ben, c'est aussi assez particulier, parce que dans notre communauté, il n'y a pas vraiment beaucoup de femmes chefs entreprises noires, ça n'existe pas. Donc mes parents, ma mère n'a pas vraiment compris pourquoi deux filles sont voulues se lancer dans cette aventure. Voilà, on n'avait pas d'exemple ni de cousine ou de grande sœur qui était vraiment dans cette voie. Mais comme c'était vraiment une passion, c'était quelque chose qu'on a toujours voulu faire. Nous, on est resté dans notre voie de départ, dans notre envie, et voilà comment on a commencé.
D'accord. Et tu dirais que c'était un peu plus dur pour vous aussi parce que vous étiez deux femmes noires?
On va dire, on était deux femmes noires, on était très jeunes et effectivement, on n'avait pas d'expérience. Le fait d'être deux femmes noires, je dirais pas que c'est ça qui nous a, enfin, c'est pas, on nous a pas fermé les portes parce qu'on était des femmes noires, mais c'est tellement peu répandu que même quand on discutait avec des personnes qui étaient un petit peu comme nous, qui cherchaient à lever des fonds ou un prêt, tout simplement, déjà autour d'eux, on va dire dans leur environnement, ils avaient déjà plus de personnes qui entreprenaient, même très jeunes, mais femmes noires, c'était limite du jamais vu, c'était très rare. Donc c'est pour ça, c'était plus le côté un petit peu, c'est tellement pas commun qu'on n'est pas sûr qu'on va les accompagner parce qu'elles vont pas réussir, parce qu'elles maîtrisent pas l'environnement, et on pense qu'autour d'elles, dans leur milieu social, les gens aussi ne connaissent pas. Et donc c'était plus ça en fait, c'était le fait d'être effectivement socialement, hein, peut-être éloigné de ce genre de parcours qui faisait que les gens étaient réticents. Voilà, donc maintenant je peux dire, alors je sais pas si c'est dû à ma couleur, mais oui, c'est vrai, je me rappelle un jour, j'avais participé à une petite anecdote comme ça, à une soirée, et puis il y avait des entrepreneurs, et il y avait justement des banquiers qui me disaient, oh là là, mais c'est limite, ils étaient tellement choqués de dire, vous êtes jeune, vous êtes noir, et vous habitez où, dans le 93? Non, on a dit dans le 77. Ah, d'accord, parce que là, ça aurait été juste le topo. Ouais, non, on est du 77, parce que c'est tellement éloigné pour eux, ils n'avaient pas l'habitude de voir des jeunes femmes issues de la diversité arriver avec ce genre d'ambition. Voilà, c'était très très étrange, mais effectivement c'était quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps, donc on maîtrisait parfaitement notre sujet. Au bout d'un moment, les gens ils vous écoutent, c'est vraiment ça en fait.
C'est sûr. C'est ça. Et alors l'aventure du salon, elle dure jusqu'en 2014.
C'est ça. Donc en 2014, voilà. on ouvre à peu près 3 magasins, on a 2 magasins sur Paris, on a une concession au Mans, on a une autre concession au Congo, au Brazzaville, et on se dit, voilà, la prestation de service, c'est bien, mais c'est l'éternel recommencement, parce que au final, les gens ne sont pas liés habitam aeternam avec l'institut, des fois, ils s'en vont, c'est dommage. Donc, nous, on veut aller plus loin, on est entrepreneuse dans l'âme, et on se dit, il y a une réflexion à avoir, le produit. On se rend compte que c'est quelque chose, effectivement, qui parle beaucoup. On avait des clientes qui venaient, qui passaient, qui disaient, voilà, moi, je peux pas venir me coiffer aujourd'hui, je peux pas venir faire mon soin du visage, mais je récupère ma crème de jour, je récupère mon shampoing. Et on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire sur cette voie-là. On avait, effectivement, on avait nos clientes en face, donc on savait exactement quelles étaient leurs problématiques. Souvent, ouais. Elles souffraient parce qu'elles avaient des problèmes de peau, elles utilisaient des produits qui étaient nocifs. Du coup, des fois, ça détériorait leur peau, même leurs cheveux. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et si, effectivement, nous, on proposait un produit, donc des produits, enfin une gamme de cosmétiques totalement clean pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'on commence à travailler sur cette idée, qu'on arrête les salons, on arrête le format salon-prestation, qu'on se lance dans la création de notre labo et on développe notre première marque.
D'accord.
C'est ça.
Ok. Et en fait, Elika est née à partir de là. Donc, c'était d'abord du maquillage.
C'est ça.
Ouais.
C'est d'abord et c'est surtout du maquillage parce qu'on fait d'autres produits, mais on s'est dit le maquillage, c'est vraiment un produit qu'on a tous les jours sur la peau parce qu'on met toujours du rouge à lèvres, on met toujours du fond de teint. Donc, nous, on voulait proposer une offre clean, justement en se disant, voilà, c'est non nocif, vous pouvez y aller pour le coup. Ça veut dire vous maquiller sans hésiter. Autant que vous souhaitez, il n'y a aucun problème parce que justement, c'est sain et c'est surtout adapté à tout type de peau. C'est vraiment ça qu'on voulait faire.
D'accord. Et c'est une marque de maquillage qui s'adresse à toutes les femmes, quelle que soit la couleur de peau.
C'est ça, totalement. On est resté sur notre singularité du départ, en fait. On s'est dit, voilà, on veut des produits que je pourrais utiliser, que mon amie asiatique ou mon amie caucasienne pourrait utiliser aussi. Voilà, on veut la même promesse. Il faut que ça soit clean, il faut que ça soit pigmenté, chic. Et donc, on est resté sur ce segment-là. Totalement. Donc c'est pour tout le monde. Voilà, ça permet effectivement de sublimer n'importe quelle femme en fait, qu'elle soit âgée, très très jeune. On a vraiment proposé une gamme avec des produits de tout type.
D'accord. Et pourquoi avoir voulu intégrer des ingrédients bio dans les formules?
Ben, nous, en fait, effectivement, avec notre parcours et on va dire tout notre background en prestation de service, on voyait les clientes arriver qui avaient du mal à se démaquiller parce qu'elles disaient, voilà, je vais me démaquiller à vous, je peux vous montrer, mais j'ai des taches, j'ai la peau totalement abîmée, j'ai les cheveux qui tombent. Donc, on voyait, et souvent, c'était dû à quoi? L'utilisation de produits qui étaient nocifs. Donc, on s'est dit, aujourd'hui, nous, il nous faut des produits clean, bio, naturel, puisqu'on est surtout 100% naturel, et certains de nos produits sont conçus avec des actifs qui sont 100% bio, mais la promesse est vraiment 100% naturelle pour ne pas détériorer le capital beauté de la cliente. C'était ça notre vrai souci à nous. Parce qu'on les voyait arriver, ils disaient, voilà, j'ai mis des frisages, mes cheveux sont tombés, ça va plus jamais repousser, j'ai mis ce fond de teint là, j'ai des taches, j'ai des boutons, c'est horrible, c'est affreux, et du coup, elles étaient limite déprimées. Au bout d'un moment, même, on faisait de la psychologie. En institut, c'était marrant, les gens venaient et puis on passait, voilà, entre une heure même avec les produits devant le miroir, on faisait des tests beauté pour justement permettre aux femmes de se sentir mieux. Donc on s'est dit que si aujourd'hui on a la possibilité d'apporter un produit, une marque différente, ben on va miser vraiment sur des produits sains, safe. C'est vraiment ça. Et ça, c'est que dans le naturel qu'on pouvait trouver cette promesse-là.
Alors certains ingrédients sont issus du commerce équitable.
Oui.
Le sourcing, c'est important pour vous?
Totalement. Le maquillage, comme je disais tout à l'heure, c'est un produit qu'on utilise tous les jours. C'est un produit qu'on a vraiment, voilà, tout le temps sur nous. On s'est dit, c'est un produit qu'on achète aussi spontanément, quitte à utiliser un produit, on va dire, qui va permettre de un produit, on va dire, un petit peu solidaire. Vaut mieux miser sur le maquillage parce qu'effectivement, on peut utiliser des matières premières nobles issues du commerce équitable, qui vont aussi, tout simplement aider les personnes qui sont les plus démunies. Voilà, c'est possible de le faire. Et plus avec le maquillage, encore une fois, c'est quelque chose qu'on utilise vraiment et qu'on a tous les jours. Donc pour nous, c'était important de faire en sorte aussi que notre concept soit basé sur un concept solidaire de partage. Voilà, j'aime mon rouge à lèvres. Voilà, il y a du moringa dedans. Le moringa, il vient d'une coopérative qui se trouve au Burkina Faso ou au Congo. Quand tu l'achètes, on reverse un petit peu. Donc c'est aussi une manière aussi d'inciter les personnes à être dans ce partage. C'est ça. Ouais. Vous êtes belle à l'extérieur, vous êtes belle aussi à l'intérieur parce que vous faites un beau geste au final. Donc, c'était un petit peu notre vision des choses.
D'accord. Et j'ai vu que vous aviez aussi développé des soins visage, corps et cheveux. C'était indispensable, j'imagine.
Totalement, parce que du coup, on a, au lieu de la demande, c'est vraiment dû, parce que c'est la demande, c'est les clientes qui, après avoir utilisé le maquillage, disent, voilà, moi j'ai besoin aussi d'avoir mon masque pour les cheveux, ma crème pour 2 jours, ce genre de choses. Et donc, on s'est dit, c'est la suite logique, effectivement, de proposer aussi des produits du skincare et du haircare. Mais c'est vrai que notre singularité, ça reste vraiment dans le maquillage. Parce que c'est un produit d'achat spontané. Le soin, le haircare, c'est aussi, les gens adhèrent parce que encore la promesse est tenue. On est sur du 100% naturel, mais on se rend compte vraiment ce qui attire le plus nos clientes, c'est le fait de dire voilà, moi je veux un rouge pétant, le même que chez Chanel, je peux le trouver chez Ikea parce que leur Red Queen y brille autant. Donc c'est pour ça. Avec le skincare, on est dans cette promesse là, mais avec vraiment le rouge à lèvres, on est plus dans le côté c'est de l'indispensable.
Comment vous avez vu évoluer l'univers du maquillage depuis tout ce temps? Est-ce que l'arrivée de blockbusters tels que Fenty Beauty de Rihanna, par exemple, vous ont fait peur ou est-ce que ça vous a profité?
Alors déjà, c'est vrai que le maquillage aujourd'hui, il n'y avait pas autant il y a quelques années. Je pense que c'est aussi grâce aux réseaux sociaux parce que c'est l'image à outrance maintenant, avec l'image, les beauty looks, ce genre de choses, les photoshoots. Donc, le maquillage prend de plus en plus de place dans la vie de la vie des femmes. Voilà. Après, nous, effectivement, on n'a pas été tant touchés que ça de l'arrivée des marques telles que Fenty Beauty ou ce genre de choses parce que, encore une fois, on s'est positionné sur un créneau qualitatif. Nos clientes qui achètent les produits, elles achètent d'abord pour la composition. Des fois, elle m'appelle, elle m'envoie des messages en anglais. D'ailleurs, j'habite en Hongrie, j'ai vu que vous aviez tant sur votre fond de teint, je suis intéressée, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? C'est vraiment ça. C'est pas tant, effectivement, l'effet marketing de masse qui fait qu'elle s'accroche à la marque, mais c'est plus, j'aime Elika parce que c'est clean. Voilà, c'est vraiment comme ça que je souhaite consommer. Je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que je mets sur ma peau, bien évidemment. Et du coup, c'est plus un achat de ce type. Alors, ça nous a profité parce que certaines clientes ne supportaient pas les produits de Fenty Beauty qui étaient malheureusement trop siliconés. Donc, du coup, elles avaient des réactions. Donc, du coup, nous, on a pu les récupérer pour leur proposer tout simplement du maquillage clean parce qu'elles avaient des boutons, d'autres avaient eu des taches, ce genre de choses. Et ça nous a permis, nous, tout simplement, de leur montrer l'efficacité aussi du maquillage green parce qu'on souffre un petit peu d'une certaine image. Oui, mais c'est naturel. Mais comme c'est naturel, ça tient pas. Comme c'est naturel, c'est pas assez pigmenté. Et en fait, avec ce genre de marque et on va dire les petites mésaventures qu'elles ont eues pour les personnes qui n'ont pas supporté leurs produits, elles ont pu tout simplement découvrir le make-up green, quoi.
Tu as différents engagements sociétaux aussi. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, durant notre parcours d'entrepreneuse, on sait que c'est très important de pouvoir aussi, en tout cas pour nous, ça nous tient à cœur de pouvoir soutenir certaines causes. Voilà, on essaye avec nos petits moyens de mettre à profit certains de nos résultats. On travaille avec des associations auxquelles on reverse des dons. Dernièrement, l'année dernière, on a fait une opération avec une association qui s'appelle Femmes de bon cœur qui aide tout simplement les femmes et les enfants en Afrique. Donc, on leur a reversé des dons. Voilà, on travaille avec beaucoup de coopératives. L'idée, c'est toujours le côté solidarité. On achète, on améliore tout simplement votre qualité de vie. Et puis là, dans pas longtemps, on va sortir une box, en fait, une unit box qui sera dédiée uniquement à des associations et au niveau du chiffre d'affaires, tout sera dédié à ces associations. Pour nous, l'objectif, c'est vraiment de se dire aussi, on est une marque inclusive. Voilà, on est dans le côté de l'engagement. Main dans la main, c'est important qu'on puisse aussi porter les changements qu'on souhaite. Le maquillage, c'est quelque chose que tout le monde utilise. On peut aussi, à travers ce petit achat, participer, aider les autres. Et c'est très important, surtout avec tout ce qu'on vit aujourd'hui. C'est même très important.
Bien sûr. Et comment se porte Elika, justement, avec tous ces confinements et tous ces bouleversements que nous vivons depuis quelques mois?
On va dire qu'on va bien, on résiste. On résiste, on est une petite entreprise aussi, on fait beaucoup de B2B, on travaille avec des distributeurs, des box à l'international en France, donc du coup on arrive quand même à pouvoir honorer nos commandes, mais c'est vrai qu'on a pas mal de ralentissements parce qu'on a des collaborateurs qui malheureusement ne peuvent pas venir à cause des confinements, ce genre de choses. On a dû décaler le lancement de notre réseau VRP. On avait monté une petite équipe de VRP qui était censée distribuer la marque au sein d'instituts de parfumerie. Et à cause du confinement, malheureusement, on a dû décaler à début janvier parce que malheureusement, tout le monde est fermé. Donc, on croise les doigts pour que la situation s'améliore parce que c'est sûr que c'est juste un crève-cœur pour tout le monde. Et pour nous, voilà. Après, c'est vrai que sur le site internet, on a de plus en plus de commandes. Parce que du coup, les gens sont chez eux. Donc, commandent, testent, découvrent. Donc, c'est pas plus mal, mais on préfère quand même le déconfinement.
Ouais, j'imagine. Et comment tu vois l'avenir du make-up en général? Est-ce que le maquillage va repartir? Parce qu'on dit qu'il est très impacté, justement, non seulement par le confinement, mais aujourd'hui par le port du masque, etc.
C'est vrai, effectivement, il y a pas mal à cause de la situation, le maquillage est impacté, mais je pense, au vu de la société dans laquelle on vit actuellement, où l'image est à 100, est à 1000%, tout le monde fait attention à son image, les réseaux sociaux, c'est toute la journée, des photos, des photoshoots, donc je pense qu'effectivement que le maquillage a encore de beaux jours, parce que concrètement, c'est un outil qui permet de sublimer la femme. Je pense que le maquillage clean aura de plus en plus sa place et va grandir, parce qu'avec tout ce qu'on voit, ce qu'on vit, les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mettent sur leur peau, donc du coup, ces sujets notamment de clean beauty, je pense que ça va prendre de plus en plus de place, ça va grandir. Dire, je pense. Moi, je reste assez positive sur ce sujet. Je pense pas que ça va s'arrêter parce qu'on est vraiment dans une société où l'image, l'estime de soi, l'image a basculé à 1000% et tout le monde va être la plus belle. Des fois, même, c'est un petit peu trop. Voilà. Ouais. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, notamment les produits nocifs, les cancers, comme ça, les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mettent. Donc, le maquillage clean, enfin, tout ce qui est clean, aura vraiment sa place et va grandir, je le pense. Nous, en tout cas, on est de plus en plus sollicités par des clients, on est de plus en plus sollicités, même par des distributeurs qui veulent avoir une vraie proposition de make-up clean, en fait, parce qu'il n'y a pas tant de marques que ça, au final. Donc, je pense que ça va grandir et qu'on va pas s'arrêter.
Tant mieux. Et tu es maman, comment tu fais pour gérer ta vie de maman et d'entrepreneuse?
Ben je m'éclate parce que c'est génial d'être maman et d'être entrepreneuse. Moi, je suis devenue maman en étant entrepreneuse. C'est pas toujours facile parce que quand on est entrepreneuse, ouais, surtout au départ, ben on est dans la période du sacrifice, du désert. Hein. On donne tout, on travaille 6 jours sur 7, on n'a pas de vacances, donc c'est difficile quand on a un enfant en bas âge. C'est dur, mais en même temps, c'est tellement. Moi, je me sens bénie. Hein. Je rentre chez moi, je vois mes deux petites princesses, je suis juste heureuse. Elles adorent le maquillage en plus. Elles parlent tout le temps de Elika Beauty et tout et tout. Donc c'est génial, mais c'est une vraie force. C'est vrai que c'est pas facile. Des fois, on se dit, j'ai des amis à moi qui étaient aussi dans l'entrepreneuriat, qui refusaient de faire les deux en même temps, en disant, c'est trop compliqué, j'arriverai pas à gérer. Mais au final, moi, j'ai envie de dire à toutes ces femmes que c'est justement la meilleure des choses à faire parce que ça donne de la force, ça donne beaucoup de positivité. Et puis, les enfants, faut pas passer à côté de ça. Et c'est vrai que c'est dur, mais rien n'est facile dans la vie. Mais le fait d'avoir ces deux choses, sa passion et on va dire, et l'amour, les amours de sa vie, ça peut que nous permettre d'être de plus en plus forts. Donc moi, c'est vraiment ce que je vis. Je suis hyper heureuse. Quand je rentre chez moi, je suis hyper heureuse d'être inondée d'amour. Et puis du coup, quand j'arrive au travail, je suis contente parce que j'ai été inondée d'amour. Donc je peux bien travailler.
Et quelles sont tes ambitions futures pour la marque ?
Alors pour Elika, moi j'aimerais convertir de plus en plus de femmes au green beauty. J'aimerais vraiment, aujourd'hui on peut faire de très belles choses avec des matières nobles, avec des produits non nocifs. Plutôt les gens auront conscience qu'utiliser des matières nobles, saines, c'est pour aussi tout simplement faire attention à sa santé. Donc j'espère pouvoir de plus en plus faire découvrir la marque, le green make-up, la green beauty à de plus en plus de personnes parce qu'on peut faire de très belles choses aussi. Voilà, même si c'est du maquillage naturel, on peut avoir des pigmentations de dingue, on peut avoir des résultats ultra lumineux, ultra résistants, comme les marques, on va dire, mass market, mais avec des produits nobles.
Conventionnels.
Totalement. Donc, j'espère vraiment, moi, étendre, en tout cas, ma marque sur de plus en plus de territoires possibles et puis, encore une fois, emmener, on va dire, de plus en plus de clientes à consommer des produits nobles, c'est important. Vraiment ça.
Merci beaucoup Rachel.
Merci Chantal, je suis ravie d'avoir pu participer à cette petite interview. Merci.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur Apple Podcast et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. 5 étoiles, ce serait génial. Beauty Toaster est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur les applis de musique à la demande et sur le blog beautytoaster.fr. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile, ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à 7h.